L'Éden de Satan numéro 148, une séduction religieuse contre le bon type d'enseignement, le 14 janvier 2024. Brian Kozurek, pasteur, inclinant la tête dans la prière. Père miséricordieux, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es ici et nous croyons que tu es ici. Père, nous sommes le produit de ce qui était dans ta pensée avant la fondation du monde. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous maintenant pour que nous comprenions mieux les conditions de l'heure. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. C'est bon de vous voir tous. Maintenant, ce matin, nous allons examiner l'Éden de Satan numéro 148. Une séduction religieuse contre le bon type d'enseignement. Nous allons donc examiner le bon type d'enseignement par rapport à la séduction et comment vient la séduction. En fait, elle vient par le mauvais type d'enseignement. C'est ainsi que nous lisons dans Genèse 3.1 « Le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. » Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il dit, vous ne m'y mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Quand a-t-elle entendu cela? Eh bien, elle l'a entendu de son mari, parce que Dieu l'avait réellement dit à son mari. Il n'aimait le lui a pas dit à elle. Et ainsi, elle l'entend de nouveau la deuxième fois de la part de cet autre prédicateur, qui est Esther trompeur. Deux, la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Trois, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Ce mot, toucher, sester, nesem, et il signifie coucher avec une femme pour la première fois. Elle savait donc exactement de quoi il s'agissait, de peur que vous n'ayez mis mourir. 4. Et le serpent dit à la femme, il se mit à prêcher, tu n'ayez mis mourras pas. Eh bien, sester quelque chose de nouveau pour elle, 5. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal acquis. Eh bien, frère Branham dit dans l'Éden de Satan, 29 août 65 p. 37, il a dit, oh, certainement, vous ne mourrez pas, mais laisse-moi te donner la raison pour laquelle Dieu a dit ceci. Voyez-vous, sester ce que font les prédicateurs. Sester parce que, voyez-vous, maintenant ce qu'il a cité était la vérité. Vous voyez, il a dit, cela vous ouvrira les yeux, et cela vous fera connaître le bien et le mal acquis. Vous serez alors comme Dieu, si vous pouvez le faire. C'est exactement ce qu'il veut faire. C'est exactement la même chose qu'il essaie de faire aujourd'hui. C'est une séduction religieuse depuis le tout début de l'Éden. Maintenant, nous regardons les médias et nous disons qu'il s'agit d'une séduction médiatique. Nous regardons la politique et nous disons que c'est une séduction politique, mais cela a commencé par une séduction religieuse et cela se termine par une séduction religieuse. Donc, chaque fois que vous entendez un du district de Columbia par les médias ou les politiciens, cela n'est mis fait aucune différence. Ils sont tous des menteurs pour commencer. Mais quand cela vient de la chair et que le prédicateur Néhémie dit pas ce que dit un prophète confirmé et que Néhémie l'appuie par la Bible, alors Néhémie sait pas de quoi il parle. Maintenant, si Néhémie sait pas de quoi il parle, alors Néhémie sait pas vraiment où il va. Et si Néhémie sait pas où il va, alors les aveugles suivent les aveugles, parce que vous, Néhémie, savez pas non plus où vous allez. Vous feriez donc mieux de le savoir par les Écritures. C'est une séduction religieuse depuis le tout début de l'Éden et l'a été depuis. À l'époque d'Adam, c'était une séduction. À l'époque de Noé, c'était une séduction. Au temps de Jésus, c'était la même chose, et maintenant c'est la même chose, une séduction religieuse. D'accord, nous voulons donc parler de sa tactique du diable, parce que frère Branham a dit que nous devrions connaître les tactiques de notre ennemi. Tant de gens ont une mauvaise compréhension de ce message. Ils sont distraits par la nature calme du prophète, et ils cèdent donc à la même vieille tactique de Satan à cause de ce qu'ils voient. Comme Ève avant lui, le serpent était un homme beaucoup plus grand qu'Adam, et il était une créature plus belle qu'Adam, tout comme Lucifer était enflé d'orgueil par sa beauté. De même les gens sont désarmés par les bonnes manières d'un ministre, au lieu d'éprouver chaque esprit et de lui faire passer le test de la parole. Au regard, Jean-Baptiste n'était rien, et Jésus non plus. La Bible dit qu'il était d'une nature telle que nous n'aimions le désirions pas. Esaïe 53.2 « Car il poussera devant lui comme une plante tendre. » Maintenant, vous savez ce que c'est-à-dire qu'une plante tendre. Je veux dire, c'est-à-dire une plante un peu faible. Il n'a pas de fruits. On dira même qu'elle pourrait y arriver, mais c'est-à-dire juste une plante tendre et comme une racine hors d'un sol sec. Eh bien, quelqu'un a-t-il déjà vu une racine dans un sol sec? Je veux dire, elle est-à-dire toute ratatinée. C'est-à-dire prêt à être brûlé. Vraiment. Il n'a ni forme ni beauté, autrement dit, il n'était tout simplement pas agréable à regarder. Et quand nous le verrons, il n'y a pas de beauté que nous puissions le désirer. Donc, il n'y avait rien de spécial dans son apparence. Tout comme le roi David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais frère Branham a dit qu'il avait l'air d'un homme hautain coloré. D'accord. Il n'était donc pas le grand roi, le beau et le roi typique auquel les gens pensent. Un roi avec une belle barbe et de beaux cheveux, et 7 pieds de haut, 2,13 mètres. Oui, c'était un petit gars. D'accord, un petit gars chétif. C'est-à-dire un homme au teint coloré, coloré veut dire que vous avez l'épaule courbée. Les épaules courbées, mais Dieu n'y regarde pas l'homme extérieur. C'est-à-dire pourquoi il discerne les pensées et les intentions du cœur. Mais les gens jugent un homme, non pas par ce qu'il prêche, mais par son style et son débit. Ils le jugent sur la question de savoir s'il porte bien ses costumes, et sur la couleur des cravates qu'il choisit pour lui-même. C'est-à-dire comme l'a dit le président Trump. Oh, mon prédicateur préféré. C'est un le gars qui parlait de la parole de puissance, et il était en fait le premier gars qui a dit on prêche l'évangile pour gagner de l'argent. Alors, vous voulez bien le prêcher afin que vous obteniez ce qui vous revient. Eh bien, c'est tout simplement absurde. Ils ne jugeront pas par la parole de Dieu, mais plutôt par les expressions extérieures de l'homme s'il a l'air humble et gentil. Frères et sœurs, c'est-à-dire la séduction de Satan. Un homme n'est-à-dire pas sauvé par la, de, gentillesse qu'il peut projeter. Nous n'y sommes pas sauvés par la gentillesse de William Branham. Nous sommes sauvés par la parole qui a été prononcée. Vous voyez, les gens dont ce message suivent un homme. Leurs yeux sont sur le physique et ils n'y sont pas sur le message qu'il a apporté. L'ange n'a pas dit, comme Jean-Baptiste. Alors, serez-vous mon messager, ou le Seigneur viendra après vous comme si vous étiez quelqu'un d'important? Il a dit, de même que l'ange est venu à Jean-Baptiste, ainsi mon message précédera la seconde venue. Il s'agit donc d'un message. Et alors, comment peuvent-ils dire qu'ils appartiennent au message alors qu'Néhémie ne prêche même pas le message? Il prêche le pentecôtisme. Il saute du haut en bas et les prédicateurs disent, eh bien, vous n'êtes pas de Dieu si vous n'avez mis par d'espace autour de l'Église. Eh bien, laissez-moi tranquille. Montrez-moi un seul passage de l'Écriture pour cela. Ils y ajoutent. Ils en enlèvent juste comme le serpent. Vous êtes sauvés en croyant au bon Évangile. Maintenant, l'apôtre Paul, et rappelez-vous, frère Branham a dit, je n'ai mis dit que ce que Paul a dit. Il a dit dans Romains 10.13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » D'accord, vous êtes donc censé invoquer le nom du Seigneur. Eh bien, Que se passe-t-il si vous, Néhémie, connaissez pas le nom du Seigneur? Et si vous prêchiez deux seigneurs? Par quel seigneur vais-je être sauvé? Allez, pensez-y. Par lequel de ces seigneurs vais-je être sauvé? D'accord. Ils, Néhémie, connaissent même pas le nom du Seigneur. Jésus a dit, « Je viens au nom de mon Père. » Ainsi, Dieu est appelé Jésus, et frère Branham a dit que c'était Jésus en Jésus. D'accord, mais Néhémie le savent pas, sinon ils Néhémie prêcheront pas cela. 14 Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Eh bien, maintenant, voyez-vous, comment êtes-vous censé invoquer un Dieu dont vous n'avez même jamais entendu parler? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous Néhémie l'avez jamais entendu, alors comment allez-vous le croire? Et comment entendront-ils s'ils n'ont pas de prédicateur? 15 Et comment prêcheront-ils, s'ils Néhémie sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui annoncent de bonnes nouvelles. Eh bien, s'ils Néhémie sont même pas envoyés, alors ils courent sans message. Vous avez tous entendu l'histoire de frère Branham au sujet de courir sans un message. Absalom a été tué, et un messager a été envoyé pour dire à David que son fils avait été tué. Et puis un autre gars s'est dit, et, je vais le battre, je suis plus rapide. Alors je n'ai mis, c'est pas pourquoi ils n'ai mis m'ont pas choisi, mais je vais y aller et je vais courir. Et alors il a couru, couru, couru. Et c'était un meilleur prédicateur. C'était un meilleur coureur. Il était un meilleur ceci. Il était un meilleur cela. On pourrait penser qu'il était plus apte à faire le travail. Mais Néhémie l'était pas, parce qu'il a couru sans un message. Il arrive donc à David. Et David dit, « Comment s'est-il ? » Et il dit, « Tout va bien. Eh bien, si votre fils premier-né, et celui que vous aimez, Esther mort, je n'aimais pense pas que tout va bien. » Mais l'autre gars Esther finalement arrivé en courant et David a dit, « As-tu des nouvelles ?» Il dit, « Que tes ennemis soient comme ton fils Absalom. » Eh bien, David savait donc à ce moment-là, à partir de ses paroles. Et ses mots étaient plutôt gentils, parce qu'Absalom était devenu son ennemi. C'était donc un bon moyen de dire à David qu'il était mort. Ainsi, le message de frère Branham courait sans un message. Très, trois, bien, nous voyons donc ces prédicateurs prêcher, mais les ennemis sont pas envoyés. Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et apportent la bonne nouvelle des bonnes choses. 16 Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile. Car Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons dit? 17 Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il faut donc que ce soit la parole de Dieu. Eh bien, il ne s'agit pas seulement d'un tas de citations et de faire qu'une vache broute de l'herbe en haut d'un arbre, mais de prendre la parole qui nous a été apportée par un prophète confirmé et de la ramener directement à la parole Bible elle-même. Pour que vous compreniez que Dieu est le même. Il n'y change pas. Martin Luther dans son commentaire sur Romains 10. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? 10-14. Ici, l'apôtre se heurte à l'arrogance de tous ceux qui enseignent faussement et qui ont un esprit hautain. Oh, si seulement les faux prophètes ou enseignants tiendraient compte de ces paroles. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'ils n'ont pas de prédicateur? 10.14. Même s'ils disent qu'ils entendent, c'est en vain qu'ils se glorifient, à moins qu'ils n'entendent de vrais prédicateurs. Car entendre de faux prophètes signifie autant que Néhémie pas entendre. Maintenant, comment savez-vous qu'il est un vrai prédicateur? Parce que Dieu soutient sa parole par des signes et des prodiges. Il doit le faire. C'est le même Dieu qui a fait la même chose à travers tous les âges. Ils entendent et ils n'entendent pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas et ils n'y prêchent pas. Sester une déclaration frappante contre tous les auditeurs et étudiants vaniteux de la Bible. Comment prêcheront-ils? S'ils n'aimés sont pas envoyés? 10.15. Ceci est Esther dirigé contre les enseignants vaniteux et les instructeurs arrogants. Ces quatre affirmations, Romains 10. 14-15, se succèdent de telle sorte que l'une mène à l'autre, mais de telle sorte que la dernière forme le fondement sur lequel reposent les autres. Ainsi, 1. Il est impossible que ce prêche Néhémie sont pas envoyés. Ok, nous l'avons établi. 2. Il est impossible que ceux qui n'ont pas de prédicateur entendent. Autrement dit, si vous restez à la maison, vous n'écoutez pas un prédicateur. Oh, vous dites, eh bien, j'écoute une bande. Comment savez-vous qu'il Néhémie vous parle pas 40 ans plus tard? Vous voulez juste le remettre sur les gens des années 60 et 50 et tout le reste, et vivre à peu près confortablement dans vos voies pécheresses. Oh, mais vous dites que vous avez un prophète. Eh bien, je n'y pense pas. 2. Il est impossible que ceux qui n'ont pas de prédicateur entendent. 3. Il est impossible qu'ils croient en celui dont ils n'entendent pas parler. 4. Il est impossible qu'ils invoquent celui en qui ils n'y croient pas. À cela, ajoutez-en une dernière, à savoir, 5. Il est impossible que ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur soient sauvés. Ainsi donc, toute la source et l'origine du salut reposent sur ceci, Dieu envoie quelqu'un. Un vrai ministre de la parole. Rappelez-vous, la lumière vient à un prophète confirmé dans une certaine région, et ensuite, c'est Esther de ce prophète que la parole Esther est mise par des hommes qui ont été fidèlement instruits. Maintenant, montrez-moi un seul prédicateur dans ce message. Eh bien, je peux vous en montrer un qui Esther a assis ici même, qui a été fidèlement enseigné, et je peux vous en montrer environ 50 autres dans le monde qui ont été fidèlement, 4, enseignés. Très bien. Autrement dit, Frère Vell a été encadré par Frère Branham, et la majorité des prédicateurs dans ce message sont sortis de la Pentecôte et sont allés directement au message en prêchant le même piège que Frère Vell a appelé, des absurdités et du n'importe quoi. S'il en envoie pas, alors ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur prédication n'estère pas du tout une prédication. Ainsi, ceux qui n'ont pas été fidèlement instruits prêchent et leur prédication n'estère rien. Ils n'aiment disent rien. Font-ils en sorte que les gens le comprennent le message? Aucunement. Ils n'aiment prêchent même pas ce qui se passe en ce moment. Comme Frère Branham l'a dit, ils peuvent voir la Bible. Ils peuvent prêcher la Bible. Mais les n'aiment peuvent pas en voir la manifestation de la Bible en ce moment même. Il n'aimait voit pas ce qui se passe en ce moment. En fait, il se portera mieux s'il n'avait jamais prêché du tout. Alors ceux qui entendent, entendent l'erreur, et il vaudra mieux qu'il n'ait pas entendu. Alors n'aimait les écouter plus. Alors ceux qui croient, croiront à une fausse doctrine, et il vaudrait mieux pour eux de n'aimer pas croire. Et puis, si vous voyez, il aurait mieux valu qu'elle n'entende jamais le serpent, parce que ce qu'elle a entendu était une fausse doctrine et cela a amené l'interposition d'une autre espèce, d'une autre race, dans la race humaine, dans la race des fils de Dieu. Et ceux qui l'invoquent invoquent faussement, comme tous les faisans du temps d'Élie, ils ont invoqué le Seigneur Jéhovah, ils l'ont appelé Balaam. Eh bien, le mot Balaam, c'est Esther la même chose. Cela signifie maître, seigneur. Il prêchait donc un autre Jésus. Et il vaudra mieux qu'il n'invoque pas. Car de tels prédicateurs Néhémie prêche pas. Vous voyez, si Néhémie prêche pas ce message et Néhémie le ramène pas à la Bible, il Néhémie prêche même pas. Vous pouvez dire, oh, c'est Esther un merveilleux prédicateur. La prédication de leur sermon Esther est excellente. Ça me fait vraiment du bien. Et je demande, a-t-il prêché la parole? Eh bien, il vous a donné un passage de l'Écriture et il a ensuite dit de Néhémie plus être ivre. Et bien sûr, certaines filles de l'Église ont été invitées à chanter des cantiques. Et puis il s'est remis à prêcher sur le fait de Néhémie plus vivre comme un ivrogne. Et puis il a encore invité d'autres sœurs à prêcher cela. C'est ce qu'elles font. Elles chantent leurs chants. Vous savez, vous avez entendu des prédicateurs chanter leurs cantiques, chanter leurs sermons, surtout parmi les vieux pentecôtistes noirs. C'est ce qu'ils font. Très bien. De tels auditeurs n'entendent pas, de tels croyants n'y croient pas, et de tels adorateurs n'invoquent pas, et ils seront damnés parce qu'ils veulent être sauvés par le mensonge. C'est pourquoi nous lisons dans Proverbe 1.28. Alors ils m'invoqueront, mais je n'y répondrai pas, ils me chercheront de bonne heure, mais ils n'y me trouveront pas, car ils ont haï la science et n'ont pas choisi la crainte du Seigneur. C'est alors seulement que peuvent prêcher avec certitude ceux qui annoncent l'Évangile sans erreur. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile de la paix, 10.15. Maintenant, je vous demande ceci, à moins que vous n'y soyez un prophète confirmé, comment allez-vous prêcher la parole sans erreur? Et je vais dire ceci, c'est parce que vous dites ce que le prophète confirmé a dit et que vous le ramenez aux Écritures. Et si X égale Y, alors vous prêchez la bonne chose, n'est-ce pas? Autrement dit, X plus Y. Vous prêchez la bonne chose si vous ramenez le message aux Écritures et que tout, 5, s'accorde. C'est la clé, cela s'imbrique, et vous prêchez la même chose. Alors vous prêchez sans erreur. Par cette citation, l'apôtre montre que seuls peuvent prêcher ceux qui sont envoyés par Dieu. Si vous n'êtes pas envoyé par Dieu, vous n'y prêchez pas. Vous n'êtes pas un prédicateur. Cela, qu'il n'a pas envoyé, Néhémie peuvent pas prêcher la parole divine et être des messagers de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous donner le test pour cela. Il est dit qu'un mauvais arbre Néhémie peut pas prêcher de bons fruits, mais qu'un bon arbre Néhémie peut pas prêcher de mauvais fruits. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire le fruit de la saison. Si vous Néhémie prêchez pas le fruit, l'enseignement de la saison, vous prêchez de mauvais fruits. Cela signifie donc que Dieu Néhémie vous a même pas appelé. Cela, qu'il n'a pas envoyé et à qu'il n'a pas confié sa parole. Néhémie peuvent pas prêcher la parole divine et être des messagers de Dieu. Ainsi, avec ces mêmes paroles, l'apôtre souligne la nature de la paix spirituelle et de ses dons. Ces bénédictions Néhémie sont entendues que dans la parole divine et Néhémie sont appréhendées que par la foi. Ils Néhémie peuvent pas être présentés sous une forme visible. Maintenant, le mot beau représente la pureté. Autrement dit, à quel point les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile sont-ils beaux? Combien purs sont les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile de paix? Et j'aimerais ajouter, que selon le lexique Strong, cela signifie appartenant à la bonne heure ou à la bonne saison. Comme c'est beau, comme c'est pur. Ainsi, appartenant à la bonne saison, il y a ceux qui prêchent l'Évangile, vous voyez, avec à propos par la mise en œuvre afin d'être prospère. Il nous incombe donc de choisir le bon type d'enseignement à suivre, parce que votre destination éternelle réside dans l'écoute de la parole correcte pour la saison, pour l'heure. Eh bien, frère Branham a dit. Vous savez, il y a quelque chose à propos de celui au pied de qui vous êtes assis et qui vous enseigne. Il y a quelque chose là-dedans. Je n'entrerai donc pas dans les détails. Hébreux chapitre 5 et 6. Au 8. Au 9.57. Matin P. 24 Paul, s'adressant à ce groupe d'Hébreux, mais Sester a des érudits à qui il s'adresse maintenant, à des érudits très instruits. Nous trouverons cela dans quelques instants, très érudits. Mais le profond mystère spirituel, l'Église est toujours aveuglée par cela. Il a dit, Alors que tu devrais enseigner aux autres, tu es toujours un bébé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent, qui sortent, qui disent, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Maintenant, ce monde en est rempli en ce moment. Dieu soit loué, le Saint-Esprit est venu, c'est lui l'enseignant. Quand vous avez cette idée, vous vous trompez tout simplement. En effet, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il établi des enseignants dans l'Église, s'il devait être l'enseignant? Vous voyez, il y a d'abord des apôtres, des prophètes, des enseignants, docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'Église, afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. Et s'il y en a, ce n'est pas selon la parole. Dieu ne confirme pas cela, alors ce n'est pas le bon genre d'enseignement. C'est pourquoi je suis si reconnaissant que Dieu ait confirmé par des miracles ce ministère. Ce n'est pas moi qui fais les miracles, c'est Dieu qui confirme le ministère. C'est exactement comme lorsque frère Branham a vu les trois arcs-en-ciel, dont il a dit qu'ils avaient la forme d'un bol. Il a dit, c'était pour confirmer que ce qu'il enseignait était la vérité. Les mêmes comme Banzangungu. 6. Il doit se comparer à la Bible tout entière et être tout aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Il y a la chose vraie qui se manifeste. 24. Maintenant, nous remarquerons la terre, quand Dieu l'avait sous contrôle. Eh bien, quand Dieu avait cela sous son contrôle, puis quand Satan a pris le dessus en rejetant la parole de Dieu. Il fut un temps où Dieu avait la terre sous son contrôle. Il l'a mis dans son orbite. Il l'a mise pour que ça marche. Il a tout fait. Il avait cela sous son contrôle. Maintenant, nous allons comparer cela avec ce qui s'est passé après que Satan en a pris le contrôle. Eh bien, il a fallu 6000 ans à Dieu. Cela ne lui a pas pris autant de temps, mais il a pris autant de temps. Autrement dit, il n'avait pas besoin de prendre autant de temps, mais il a pris autant de temps. 6000 ans, parce qu'on nous enseigne qu'un jour au ciel, c'est 1000 ans sur la terre, et c'est en 6000 ans, ou plutôt en 6 jours, que Dieu a construit la terre. 25. Eh bien, il a fallu 6000 ans à Dieu pour l'établir, pour y planter de bonnes semences et pour produire tout ce qui est selon son espèce. Tout doit produire de son genre. Toutes ces semences étaient bonnes, et elles devaient donc produire selon leur espèce. Dieu a pris 6000 ans. Genèse 1:11 et Dieu dit, que la terre produise de l'herbe, que l'herbe produise de la semence, et que l'arbre fruitier produise du fruit selon son espèce, dans la semence estère en elle-même, sur la terre. 12. Et la terre produisit de l'herbe, et de l'herbe qui produisit de la semence selon son espèce, et l'arbre qui produisit du fruit, dont la semence était en elle-même, selon son espèce, et Dieu vit que c'était bon. Donc, c'est une loi de Dieu. C'est la loi de la vie et elle doit se manifester, et il n'y a rien que vous puissiez y faire. Ce n'est pas celui qui court, ni celui qui veut. C'est Dieu qui fait preuve de miséricorde. Il est dit, c'est être né de Dieu. C'est encore plus fort que de moissonner et de semer. C'est un fait immuable. Et s'il vous a vu avant les fondations du monde et il a programmé votre ADN pour qu'il se manifeste d'une certaine manière, alors il va le faire. C'est vraiment merveilleux. 26. Finalement, frère Branham dit, quand il a tout fait, et finalement nous arrivons finalement au quartier général de la terre, dans un bel endroit, à l'Esther d'Éden, appelé le Jardin d'Éden. Dieu a établi le quartier général du monde dans le Jardin d'Éden, en Égypte, juste à l'extrémité orientale du jardin se trouvait le quartier général. Et par-dessus toute la situation, il a placé son fils et la femme de son fils au-dessus de tout cela. C'est vrai. C'est ce que Dieu a fait. 27 Il m'a mis en position de contrôle total. Il pouvait parler au vent, et il cessait de souffler. Il parlait à l'arbre, et il se déplaçait d'un endroit à l'autre. Il suffit de penser à la nouvelle terre. Je veux dire, oh là là, c'est cette terre tout simplement formidable où nous allons. Le lion et le loup paissaient ensemble, et l'agneau se couchait avec eux. Il n'y avait pas de mal acquis. C'était la paix parfaite, l'harmonie parfaite, tout était dans la perfection, et quand Dieu avait cela sous son contrôle. Remarquez. Il avait le sien, il avait son monde, il avait tout en marche. Il avait tout ce qui arrivait, tout ce qui mangeait la végétation, rien n'ennemi devait mourir, rien n'ennemi devait être gâché, rien n'ennemi devait être gaspillé. Rien. C'était tout simplement parfait. Et au-dessus de tout cela, il a placé ses enfants bien-aimés, son fils et sa fille, un mari et une femme pour contrôler cela. 7. Oh là là. Néhémie se rase pas un endroit merveilleux où vivre où tout esterpé et où l'on prend soin les uns des autres, où l'on vit avec tous les animaux et les uns avec les autres, dans la paix et la perfection. Maintenant, comparez cela à cet Éden de Satan où il n'y a pas de paix, ni de sécurité, ni de vie pour les autres. Comparez cela à notre vie dans la paix et la perfection avec l'homme et avec la création de Dieu. Quelle différence ce sera? Dieu doit donc détruire la terre. Il doit détruire les cieux parce que l'homme a touché ces choses. Et Dieu doit détruire tout ce qu'ils ont touché parce qu'ils y ont laissé leurs empreintes digitales. Très bien. Il doit tout brûler. 28 Dieu était si satisfait, et il s'était reposé de toutes ses œuvres le septième jour, et il a sanctifié ce septième jour, le sabbat, pour cela. Maintenant, pensez-y. Dieu, qui n'a pas besoin de repos, qui n'a pas besoin de sommeil, s'était reposé de toutes ses actions. Avez-vous déjà pensé à cela? Autrement dit, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Maintenant, tout dépendait de sa semence parole de commencer son temps de manifestation. En effet, Dieu a examiné tout cela. Après qu'il eut passé 6000 ans à la modeler et à la réparer, il l'a fait venir à l'existence et a élevé les montagnes et fait les volcans. Il a fait se hausser les montagnes et les choses qui se sont produites lors des éruptions. Il l'a séché et il l'a réparé comme il l'avait fait, et c'était un bel endroit. Il n'y avait rien de tel. Eh bien, il nous a changé du fait que nous étions en lui à la manifestation de cette semence parole. J'espère que vous comprenez de quoi il parle. 29 Les grands paradis de Dieu, et les grands dinosaures, et que sais-je encore, se mouvaient à travers eux, et les grands animaux, il n'y avait pas de mal acquis en eux. Ils étaient aussi doux qu'un petit chaton. Ils n'avaient rien du tout. Remarquez comment les manifestations de ces créations étaient dans un chapitre avant même que votre parole semence Néhémie commence à se matérialiser. À quoi cela servait-il? Comment cela m'affectait? Dieu préparait votre livre de vie, votre histoire. Vous savez comment un très bon auteur vous prépare pour l'histoire principale. Avant même que le personnage principal n'entre en scène, l'auteur a déjà préparé le cadre, les circonstances et l'environnement qui ont tous à voir avec vous, et le développement de votre personnage dans l'histoire de votre vie. Oh là là! Dieu a fait tout cela pour nous. Il a tout préparé. Et nous avons regardé comment les personnages sont entrés dans notre livre de vie et ont eu une influence sur nos vies. Et pourtant vous, Néhémie, pouviez pas comprendre pourquoi ils sont partis. Parfois, dans le livre, un personnage entre au chapitre 2 ou 3 et reste, pendant quelques chapitres, puis vous, Néhémie, le voyez plus. Pourquoi sortent-il du milieu de vous? Parce qu'ils n'étaient pas des vôtres. Voilà tout. C'est exactement ce que dit la Bible. C'est tout le travail préparatoire de l'auteur dans la préparation de l'histoire. Et nous nous interrogeons si souvent sur les personnages qui ont affecté nos vies d'une manière ou d'une autre, mais qui, sans raison, sont retirés de notre histoire et d'autres personnages y entrent et influencent le dénouement de l'histoire. Pourquoi certaines personnes sont-elles venues parmi vous et vous les avez aidées et leur avez donné du travail? Vous leur avez donné un logement? Vous leur avez donné des vêtements? Vous avez fait tout le reste. Et puis ils vous ont rejeté et sont partis. Ce n'était pas pour eux, c'était pour vous. Dieu voulait voir ce qu'il y avait en vous. Il voulait tester vos attributs, et voir quel genre de fils de Dieu et de fille de Dieu vous étiez vraiment. 8. Parfois, dans votre histoire, vous les voyez arriver, puis pendant quelques chapitres, ils sont partis pour revenir à la fin de l'histoire. Et vous voyez que tout s'est arrangé pour le mieux. Alors, lâchez prise et laissez Dieu faire ce qu'il veut et toutes choses concourront pour votre bien, car il est l'auteur de votre histoire. Nous continuons avec frère Branham. Non, il n'y a pas de maladie, pas de chagrin, pas un seul germe de maladie sur la terre. Oh! Quel endroit, les grands oiseaux qui allaient d'arbre en arbre, et Adam pouvait les appeler par leur nom, et ils volaient sur ses épaules et roucoulaient pour lui. Oh! Quel endroit merveilleux Dieu avait! 30. Et puis il a fait l'un de ses attributs à partir de son propre corps. Dieu a des attributs dans son corps, comme vous êtes un attribut de votre père. Et remarquez, vous étiez dans le sein de votre arrière-grand-père. Mais en cela, disons, nous le prendrons comme pour vous et votre père. La naissance virginale n'est rien comparée à notre naissance. Dieu vous a vu avant qu'il n'ait mis créé quoi que ce soit, et aujourd'hui, vous avez l'apparence que vous aviez dans sa pensée. Et vous avez un certain ADN qui vous donne cette apparence, alors il a dû réunir vos parents pour vous donner la bonne combinaison d'ADN, pour vous faire ressembler à ce que vous étiez dans ses pensées. Et il a dû rassembler vos parents, les parents, et leurs parents, les parents, etc. jusqu'au jardin pour s'assurer que vous aviez la bonne combinaison d'ADN pour vous donner l'apparence que vous avez. Et je veux que vous compreniez cela. Tout ce que vous avez par ADN était en Adam. Quelle puissante déclaration! Tout ce que vous êtes, toute la façon dont vous parlez, tous les attributs qui composent votre personne étaient en Adam et Ève. Et à chaque génération, depuis le commencement, Dieu devait s'assurer que vos parents se rencontrent, et que vos grands-parents se rencontrent, et que vos arrière-grands-parents se rencontrent, tout au long de l'histoire depuis le commencement et qu'ils aient l'attirance nécessaire l'un pour l'autre, pour qu'ils s'unissent pour produire la combinaison nécessaire d'ADN qui est maintenant vous. Oh là là! Pensez-y, et cela pourrait vous prendre des semaines pour y penser. Et chaque fois que vous y pensez, cela grandit et grandit et grandit et vous réalisez à quel point vous servez un grand Dieu. Rappelez-vous, le pommier est comme un petit brin de 1/2 pouce de haut à toutes les pommes qu'il produira. Juste de cette taille. Mais chaque pomme est là et chaque fleur qu'elle produira. Sinon, où est-ce? Et nos ancêtres aussi. Lévi paya la dîme alors qu'il était dans les reins d'Abraham. Dieu dit à Jérémie, « Je t'ai connu quand tu étais dans les reins de ta mère et je t'ai ordonné pour être prophète du peuple. » Dieu le savait dès le commencement. Il est tout sous son contrôle, et il s'est reposé. Et s'il s'est reposé, alors qui sommes-nous pour Néhémie pas nous reposer dans ce qu'il a fait? Pensez-y. Il nous a énoncé 88 choses qui se passeraient à sa parousia et il en a accompli 84. Et il est certainement en repos sachant que les 4 dernières choses viendront aussi certainement que les 84 qui les ont précédées se sont accomplies. Il les a annoncées dans sa parole. Et elles sont une semence de sa pensée. Il les a prononcées. Et elles s'accompliront certainement comme il l'a énoncé. Et comme frère Branham l'a dit, vous avez vu votre dernier signe. Nous n'y verrons pas les 4 derniers signes tant que nous n'aurons pas de changement. 1. C'est la résurrection. 2. C'est le changement du corps. 3. C'est l'enlèvement. Et 4. C'est la destruction de la terre. nous n'allons pas voir la destruction de la terre, mais nous serons dans un autre corps quand nous verrons les changements dans la résurrection, etc. Eh bien, vous ne saviez rien quand vous étiez dans votre Père. Et par conséquent, en fait, vous avez vu, 9, votre dernier signe, qui est le signe du Messie. Très bien. Vous ne saviez rien quand vous étiez dans votre Père? La réponse est non. Le germe de vie vient du mal. Le mal à la cellule sanguine, la femme à l'ovule. Eh bien, par conséquent, la cellule sanguine a la vie en elle. Et puis, quand vous étiez dans votre Père, vous n'en saviez rien. Mais pourtant, la science et la parole de Dieu prouvent que vous étiez dans votre Père, mais vous n'en saviez rien. Mais alors le Père désirait ardemment vous connaître. Et avec l'union de la connexion avec la Mère, alors vous aviez été connu de votre Père. Or, toute chose était en lui. Vous étiez en lui. Et l'histoire de votre vie se produira aussi sûrement que sa parole l'a déclaré. Et le fait que vous puissiez regarder les changements qui ont eu lieu d'un chapitre à l'autre, alors vous savez avec la même certitude que le reste de l'histoire se matérialisera pour vous et deviendra la réalité à laquelle votre cœur aspire. Hier, j'ai entendu à la radio, alors que nous allions avoir une communion, j'ai entendu un père dire, « Eh bien, j'ai cette entreprise que je dirige depuis 30 ans. J'ai la cinquantaine, et dans 8 ans, j'en aurai 60. Et mon fils Nestor tout simplement pas prêt à prendre la relève. Et ils disent que Nestor est un bon garçon. Il adore l'entreprise. Il aime tout ce qui s'y rapporte. Il est prêt à travailler dur, mais je n'y pense pas qu'il soit outillé. Eh bien, voyez-vous ce que dit le Père? Je n'y pense pas qu'il ait l'ADN. Parce que Jésus, à 22 ans, n'était pas prêt pour ce qu'il a commencé à l'âge de 30 ans. Saviez-vous que Jésus a dû grandir encore 8 ans pour devenir indépendant? Si vous voulez appeler cela ainsi, de tous les hommes, il devait arriver au niveau où il pouvait se mettre en route et s'occuper des affaires de Dieu. Il n'était prêt qu'à l'âge de 30 ans. Et donc, ce que la réponse aura dû être, Sester, écoutez, donnez-lui juste du temps, travaillez avec votre fils et il prendra le relais et fera probablement un meilleur travail. Mais non, ils essaient de dire ceci et cela et des trucs un peu insipides. Je n'y crois pas. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes ordonné pour être ce que vous êtes, mais vous devrez peut-être grandir en cela. Sester tout ce que je dis. Alors, frère Branham dit, eh bien, vous êtes la tribu de votre père. Vous lui ressemblez, et vous avez des parties de votre corps qui ressemblent à celles de votre père. Eh bien, Sester ainsi que Dieu était au commencement. Chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu était en Dieu au commencement. Vous Néhémie vous en souvenez plus maintenant, mais vous y étiez. Il le savait, et il voulait que vous le deveniez, afin qu'il puisse entrer en contact avec vous, vous parler, vous aimer et vous serrer la main. Oh, quel Dieu glorieux nous servons! Inclinons nos cœurs dans la prière maintenant pour simplement l'adorer. Père miséricordieux, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, de savoir que tout ce que tu as ordonné pour nous s'accomplira. Nous sommes prédestinés à être conformes à l'image du Fils premier-né, et ce que tu as connu d'avance sont justifiés. Non seulement justifiés, mais sanctifiés par ta parole. Et nous serons glorifiés. Cela signifie que nous serons en doxazo. Cela signifie que la doxa de Dieu sera en nous. Sester ce qu'était la prière de Jésus dans Matthieu 17. Et Sester ce qu'était notre prière. Puisse-t-il nous être fait selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2024. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à Briancourt et Caroubaz, yahoo.com, 10.